Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Périgord littéraire. Alors, on va parler maintenant d'un grand de la littérature qui est Pierre Loti. Alors 2023 est l'année du centenaire de la mort de Pierre Loti, dont le nom par mariage est rattaché au Périgord et plus exactement au Bergeracois. Alors, Louis-Marie-Julien Viaud, de son nom véritable, est né le 14 janvier 1850 à Rochefort, en Charente-Maritime, où son père, de confession protestante, marié à Nadine Texier, est secrétaire et receveur de la mairie. Troisième enfant du couple, il a 19 ans de différence avec Marie, sa sœur, et 14 ans avec son frère Gustave. Il fera des études au lycée de Rochefort, passe des vacances dans le Lot, séjourne à Saint-Porchaire, en Charente-Maritime, chez sa sœur, peintre de talent, et en 1865, son frère Gustave, officier de marine, meurt sur un bateau. Son corps sera immergé au large de Ceylan. L'endroit est connu des marins sous le nom de Viaud Ridge, endroit d'un haut fond sous-marin. Et suivante, un procès perdu condamne son père à rembourser des documents volés dont il avait la responsabilité. Condamnation qui ne permettra pas à Julien de faire polytechnique. Il s'inscrit alors à l'école navale, moins coûteuse. Après des études préparatoires, le voici à Alger. En 1970, son père décède, aspirant, et il participe à la guerre contre l'Allemagne sur une corvette à hélice, qui est une corvette moderne à l'époque. À Dakar, excellent dessinateur, il fixe ses souvenirs visuels au crayon sur un bloc en dessin avant de partir en Amérique du Sud, et où il fera escale à l'île de Pâques pour rapporter une statue, tout au moins la tête d'une statue. Alors à Tahiti, la reine Pomare le surnomme Loti, lors d'une plante exotique qui en 1876 deviendra son nom de plume. Il contacte un mariage temporaire avec une Vahinée et en 1880 publie le mariage de Loti ou Rara-U, leur manifestation pour laquelle il prend le nom d'un officier d'origine britannique. Et l'ouvrage débute ainsi. Loti fut baptisé le 25 janvier 1872 à l'âge de 22 ans et 11 jours. Lorsque la chose eut lieu, il était environ une heure d'après-midi, comme je disais, à Londres et à Paris. Et il était à peu près minuit en dessous, sur l'autre face de la boule terrestre, dans le jardin de la reine Pomare, où la scène se passait. En Europe, c'était une froide et triste journée d'hiver. En dessous, dans les jardins de la reine, c'était le calme, l'énervante langueur d'une nuit d'été. 5 personnes assistaient à ce baptême de Loti, au milieu des mimosas et des orangers, dans une atmosphère chaude et parfumée, sous un ciel tout constellé d'étoiles australes. Alors, c'était Aritea, princesse de sang, Faimana et Teria, suivante de la reine, Plunkett et Loti, midi-chemin de la marine de Sa Majesté britannique. Loti, qui jusqu'à ce jour s'était appelé Harry Grant, conservant ce nom tant sur les registres de l'état civil que sur les rôles de la marine royale. Mais l'appellation de Loti fut généralement adoptée par ses amis. La cérémonie fut simple et s'acheva sans long discours ni grand appareil. Les 3 Tahitiennes étaient couronnées de fleurs naturelles et vêtues de tuniques de mousseline rose à traîne. Après avoir inutilement essayé de prononcer les noms barbares d'Harry Grant et de Plunkett, dont les sons révoltaient les gosiers maoris, elles décidèrent de les désigner par les noms de Remusa et Loti, qui sont deux noms de fleurs. Toute la cour eut le lendemain communication de décision et Harry Grant n'exista plus en Océanie, non plus qu'un Plunkett, son ami. Convenu en outre que les premières notes de la chanson indigène Loti, Taïmane, etc., chantées discrètement la nuit aux abords du palais, signifieraient Remusa et là, ou Loti, ou tous deux ensemble. Ils prient leurs amis de se rendre à leur appel, ou tout au moins de venir sans bruit leur ouvrir les portes du jardin. Et puis, bon, ça continue ainsi. Il partira sur un de ses supérieurs. Harry fera la promesse à son aimée de venir la rejoindre et venir auprès d'elle. Et elle attendra son retour avec l'idée que peut-être son organisme, fragilisé par la tuberculose, ne tiendra pas jusqu'au bout. et l'espoir de le revoir enfin un jour encore vivante. Mais il reviendra et ne trouvera qu'une tombe sur laquelle était inscrit s'y repose Ra'a rue épouse Loti, le souvenir d'un amour déchirant. Alors après l'Océanie, Loti fait escale à Dakar qui lui inspire son troisième ouvrage, le roman d'un spahi, qu'il signe pour la première fois Pierre Loti et donne à l'Illustration et au Monde Illustré, qui sont des revues très lues à l'époque, des articles non signés. Loti a 31 ans lorsqu'en 1881 parut le roman d'un spahi. L'intrigue rendra l'auteur célèbre, bon, c'est pas très gai d'ailleurs, un Français transplanté au Sénégal, il connaît un grand amour, il meurt, sa maîtresse se tue après avoir tué son enfant. On trouve dans ce récit l'Afrique, ses plaines, ses forêts, à l'époque peu connues et décrites par la sensibilité d'un poète. On y trouve les aventures de l'amour, de la guerre et de l'exil. Puis la Turquie, qui sera sa patrie d'élection, l'accueille. Il connaîtra des aventures amoureuses, souvent quand même un peu risquées. Alors après l'Europe, il part en Extrême-Orient, fait escale à Tokyo, où il est invité à une soirée organisée par le ministre des Affaires étrangères japonais. En 1883, paraît mon frère Yves, roman semi-autobiographique qui décrit l'amitié entre l'officier de marine français Pierre Loti et un marin breton alcoolique, Yves Kermadec. Dans les années 1870 et 1880, et ses descriptions de la vie maritime bretonne au bord des navires et à terre donnent un ton à son œuvre. Bien que le roman ait soulevé quelques questions quant à savoir si Loti aurait décrit des relations homosexuelles, il ressort clairement du livre qu'Yves est avant tout un compagnon et un ami de l'auteur. Mais tout ça c'est bien beau, mais il y a un nombre au tableau, plus exactement Julien Biot, il a 35 ans, le temps passé, il passe vite, et ce n'est toujours pas marié. De bonnes âmes se mettent en quête de lui trouver une épouse. Le choix se fixera sur la périgourdine Jeanne Amélie Blanche Franc de Ferrière, née le 21 avril 1859 à la Birondie, sur la commune de Pomport, près de Bergerac. Elle a 25 ans, elle est protestante, ses parents sont viticulteurs, cadette de 4 enfants, son enfance se passera entre Pomport et la Mosie Saint-Martin où sa mère possède une propriété. La commune de Juillac en Gironde accueillera la famille. Alors je crois que la commune de Juillac est qu'on touche les limites du Périgord. Alors, habitant plus tard avec sa mère à Bordeaux dans une maison de la rue de la Course, elle allait souvent rue Cornac retrouver sa tante qui lui inculquera une éducation morale et religieuse, mais aussi intellectuelle, devenue à 25 ans, une jeune femme cultivée et lettrée, blanche, fréquentée la jeunesse protestante bordelaise, mais n'était toujours pas mariée. Alors, un ami de Nadine Texier, mère de Loti et de sa sœur Nelly, apprenant en 1886 qu'elle recherchait pour Julien une femme protestante, noble, agréable à regarder, et ayant quelques biens, et plus petite que lui. C'est vrai que Pierre Loti n'était pas très grand. Aussitôt, on lui proposa Blanche, dont la mère organisa une rencontre. Plusieurs projets de mariage les avaient échoué les années précédentes. Loti hésite à accepter par frayeur des engagements du mariage. Mais de dîner en dîner, de très cordiales relations se nouent avec sa future belle famille. Il va souvent à Bordeaux rendre visite à sa petite fiancée. En août, on parle contrat de mariage. Julien offre à Blanche un bracelet de diamants et saphirs. Elle vient visiter la maison de Rochefort. Ils achètent du mobilier pour leur chambre à coucher. Le mariage civil a eu lieu le 20 octobre 1866 à Bordeaux. Et en voyant sur une table une carte au nom de Madame Julien Biot, Loti prit conscience de la réalité. Dans son journal, Blanche sera désormais appelée ma femme. Les époux sont unis sous le régime d'Hôtel, le comte a précisé les apports de chacun. Pour Loti, la maison de Rochefort, divers objets mobiliers détaillés par lui avec minutie et les droits sur les livres déjà publiés. Alors, les livres déjà publiés, il y a Azéiadé, Le mariage de Loti, Le roman d'un spahi, Fleur d'ennui, Mon frère Yves et Pêcheur d'Islande. On verra la suite plus tard. Alors, pour Blanche, deux maisons à Bordeaux et différents titres de rente. Le mariage religieux fut célébré le lendemain au temple des Chartrons à Bordeaux. Vers minuit, quand j'ai reconduit tous les invités, embrassé Madame Adam dans sa voiture, je prends ma tenue de voyage, Blanche de même, et nous montons dans un omnibus quelconque et nous voilà partis dans la nuit, triste et froide, enchaînés l'un à l'autre pour la vie, dira plutôt le nouveau marié dans, ma foi, dans son journal. Alors le voyage de noces a lieu en Espagne, Grenade, où les mariés furent photographiés dans la cour des Lions à l'Alhambra, la seule photographie du couple que l'on connaisse de ce périple. N'étant jamais sorti des domaines, Franc de Ferrières, Blanche vécut là une très enrichissante expédition, avec un mari élégant, tellement à l'aise en pays étranger, un merveilleux guide. Mais très vite, le voyage la fatigue. Il fait froid, elle est malade. Se retourne à la maison. Dans la maison de Loti, Blanche réunit en décembre toute la bonne société Rochefortaise. Mais elle passera seule son premier Noël, ainsi que le réveillon de Saint-Sylvestre, certes avec sa belle famille, mais sans Julien, mais qui était, ma foi, retenu à la caserne par son rôle de marin. Alors pendant les premiers mois de 1887, Blanche fut parfaite épouse, évoluant dans des robes magnifiques au bal de Rochefort. Prenant très au sérieux son rôle de mari, Julien fut comblé en apprenant qu'un héritier a des lunettes. Mais le 27 avril 1887, Blanche, alors enceinte de 6 mois, tomba dans un escalier. La mère fut alitée pendant quelques semaines, les médecins la disaient perdue. Avec beaucoup d'efforts et de difficultés, elle parvint tout de même à se rétablir, mais sourde. Et nouvelle et cruelle désillusion pour Loti, l'enfant qu'elle portait était perdu. Obstinée, Blanche continuera pendant de nombreux mois vers des spécialistes parisiens à séjourner dans des stations thermales pour des examens qui la contraignirent même à se raser la tête. L'infirmité de son épouse ne guérissant pas, Julien s'éloigne d'elle, alors oublier ses tracas dans les bras d'autres femmes, savourant des moments de liberté et d'amour. Chaque fois, Blanche s'absentait du domicile conjugal. L'espoir d'amélioration au fil des semaines, il fut confirmé, malgré les soins qu'elle resterait sourde pour la fin de ses jours. Alors, trop lasse pour accompagner ou aider son mari à préparer une fête, elle parviendra cependant à apparaître aux côtés de Loti, l'accompagnant à Paris pour rencontrer Sarah Bernard, qu'elle recevra ensuite à Rochefort. Se montrera à des fêtes, à des bals, malgré le confort matériel, Blanche n'est plus qu'une éternelle convalescente. De nouveau enceinte, Blanche donnera naissance, 18 mars 1889, à un garçon en parfaite santé, prénommé Samuel. Le lendemain, Loti partit pour le Maroc. Pendant l'absence de son mari, Blanche est allée vivre chez sa mère à Bordeaux, où à son retour, le 13 mai, Julien la rejoignit, mais rentra seule à Rochefort, la jeune mère préférant profiter des quelques jours de printemps pour se reposer avec son fils. Et s'éloignant de son mari, qui dans son journal note « Le petit Samuel, qui est un beau bébé, n'a encore pris aucune place dans ma vie. » Bien davantage préoccupé par des affaires personnelles que par celles de sa femme et son fils, Loti repart quelques semaines à Paris. Alors, baptisé à Rochefort le 22 septembre 1889, Samuel eut pour parrain Samuel Grunzillier, un ami de Loti, venu avec la femme. Non, pour seulement la journée, Blanche repartit le soir même, fuyant la maison de Rochefort trop brillante, et dont elle n'appréciait ni la décoration, ni les trop nombreux amis de son époux, qui le 8 novembre 1889 inaugura le salon turc et la chambre arabe, par une grande fête réunissant une vingtaine de prestigieux invités. Alors, protégé par sa mère, Samuel grandissait loin de son père, qui remarqua tout de même d'un premier dent les premiers pas et les premiers mots. Mais s'absentait souvent. Loti, sous d'autres cieux, connut beaucoup de passion. En France, il aime séjourner au Pays Basque, où des escales le mènent souvent. Il y fait la connaissance d'une Basque espagnole, Crucita Ganza, qu'il installe à Rochefort. Crucita lui donnera 4 enfants qu'il ne reconnaîtra pas. Seuls 2 survivront. Début du siècle passé, Loti se rapprochera de son fils légitime, tandis que Blanche, perdant la vue, ne pouvant plus suivre son mari dans ses nombreux déplacements au Pays Basque ou à l'étranger, se retire au Bretonnet, en Dordogne, où son mari viendra lui rendre visite. Voilà. Alors, pour la suite des aventures de Pierre Loti, et malheureusement de sa femme devenue infirme, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.